Vous écoutez
RMC.
RMC, Estelle Midi.
Le zapping RMC.
Et on commence avec un extrait des Grandes Gueules ce matin. Agnès Pannier-Runacher est-elle en situation de conflit d'intérêts? Dans une enquête du média d'investigation Disclose, publiée hier, on apprend que les enfants de la ministre de la Transition énergétique sont propriétaires d'une société dont les fonds sont domiciliés en partie dans des paradis fiscaux. Le média soupçonne également ces fonds de provenir de l'industrie pétrolière dont le père d'Agnès Runacher était responsable. C'est pas facile pour Bruno Poncet, DGG, c'est complètement immoral et hors sol.
C'est quand même dingue. C'est-à-dire qu'elle est ministre de la transition écologique et derrière dans sa famille, ils investissent dans le pétrole. Alors son père, c'est un haut cadre de grandes entreprises pétrolières pendant des années.
Enfin, c'est pas de sa faute.
Non, mais c'est pas de sa faute. Mais à un moment donné, c'est comme si Macron, pour la cause de la nature et des animaux, il prenait un boucher. On en a plein dedans. Enfin, ils sont hors sol. Et aujourd'hui, la conséquence de tout ça, une fois de plus, c'est que.
Pour les chasseurs. Hein.
Et des gens comme moi, et je suis pas le seul en France, malheureusement, on le voit bien aux dernières élections, mais non seulement t'as pas envie d'aller voter, deuxièmement, dans ta tête, tu te dis, tout se pourrit, parce qu'à un moment donné, tu te dis, mais il y en a pas un qui sort du truc, quoi. Ça me rappelle.
Il n'y a rien d'illégal, hein.
Non, mais il n'y a rien d'illégal, sauf qu'il y a un vrai problème de morale et de valeur.
Thierry Moreau, effectivement, il n'y a rien d'illégal, mais on se place plutôt du côté de la morale. Est-ce que ça vous gêne, vous, cette
rien ne va dans cette histoire. Alors moi, je me placerai pas sur le plan de notre ami des grandes gueules, parce que le fait que son père est dans l'industrie pétrolière, elle peut être une militante. Ouais. Je rappelle que la fille de Randolph Hearst, qui était un magnat de la presse, était un membre de l'ultra-gauche. Donc, je veux dire, ça n'a pas de rapport. Ce qui est beaucoup plus gênant, c'est qu'il y a eu transmission de patrimoine entre le père et les petits-enfants, qu'aujourd'hui la Haute Autorité pour la Transparence de la République ne vous oblige qu'à déclarer que vos propres intérêts et pas ceux des enfants. Ça a été retoqué en 2013 par le Conseil constitutionnel en disant que l'atteinte à la vie privée était trop importante. Mais là, en l'occurrence, une transmission de patrimoine du père vers les enfants pour sauter la génération de la ministre, en l'occurrence. C'est ça le truc. Et en plus, avec des fonds provenant pas tellement de l'industrie pétrolière, ça je m'en fous, qu'il y ait des sociétés pétrolières dans le monde, ça existe. Mais domiciliés dans des paradis fiscaux, ça me gêne beaucoup plus. Donc je pense que rien ne va dans cette histoire.
Mais ces enfants, ils sont majeurs. Tu vois ce que je veux dire, t'es pas responsable.
Ils n'étaient pas majeurs au moment de la transmission.
Il y en avait d'abord 5 ans, 6 ans. Enfin,
voilà, donc c'est vraiment.
Sans l'optimisation, quoi.
Sans accusé.
Oui.
La vraie question, c'est qu'il va falloir à un moment se poser la question d'une différence entre déclaration de patrimoine, ce qui est le cas aujourd'hui, et une déclaration d'intérêt.
C'est ça.
Parce que les intérêts aujourd'hui, là, sont évidemment, il y a un conflit latent. Enfin, oui, majeur.
Pour vous, elle doit démissionner, Fatima?
Déjà, je voudrais vraiment souligner le scandale de la question de l'évasion fiscale et de l'optimisation fiscale qui structure en fait tout le reste de nos débats. C'est-à-dire que si vraiment l'argent qui s'évadait, qui dormait dans les paradis fiscaux revenait en France, franchement, ça réglerait bien des débats qui sont en général réglés par on n'a plus d'argent.
Il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits quand même ces dernières années.
quand même. Il faut vraiment continuer. C'est parce que vraiment à un moment il y a eu une volonté politique d'aller, notamment après l'affaire Cahuzac. Et là, clairement, il y a
sous
un
Macron,
moment.
Qu'on peut dire.
Hein
sous Macron.
Oui, mais sous la pression aussi. Tu sais, il y a rien.
Ça avait commencé avec Hollande.
Là, ce qu'il faut voir, c'est que voilà,
Voilà, il faut vraiment se dire qu'il y a rien qui tombe du ciel. Tout est toujours le fruit d'un rapport vrai. De force. Et en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que effectivement, quand on est en représentation politique, à un moment, il faut continuer à convaincre son peuple qu'on est dans les objectifs qu'on promet de remplir. C'est sûr. Et là, je pense qu'en fait, il y a une défiance qui est vraiment mauvaise parce qu'elle renvoie à la fatalité. Il y a beaucoup de gens qui se disent qu'au final, c'est normal en fait que les politiques ne soient pas armés en fait de toute leur cohérence pour mener à bien un projet. Et donc ça, c'est typiquement le genre de situation qui l'illustre.
Talermel.
Je suis tout à fait d'accord avec ce que viennent de dire mes copains et copines, mais moi, la réflexion que je me suis faite, en tant que bon Français moyen, c'est j'avais un petit billet de mes grands-parents pour les étrennes le 1er janvier quand j'allais leur souhaiter la bonne année.
Ça, c'était pas aux îles Gaïmont.
Oui, et on me donnait pas des parts dans une société pétrolière, quoi. Voilà, c'est-à-dire qu'on a là, je dis mais ces gens-là, ils sont pas comme nous, quoi. Excusez-moi, laissez-moi terminer.
Bah, ils sont riches.
Je vous dis, ces gens qui nous gouvernent ne sont pas comme nous.
Non mais
je me sens
gens.
Pas.
Pourquoi
moi, je
ne
suis pas
dans
la petite classe.
Tu généralises.
Gérard Darmanin est fils de femme de ménage. Mais je vous parle de la réaction. J'essaie d'être honnête avec vous. Moi, je ne cache rien ici. Ma première réaction a été celle-là. A été un réflexe de classe en disant, eh ben, encore une fois, on s'aperçoit que ceux qui dirigent les destinées de la France, pour la plupart,
donc, c'est un mauvais réflexe.
Est-ce que c'est légal?
Peut-être que c'est un réflexe, mais c'est celui que j'ai eu, c'est celui que j'ai eu hier. Voilà, en disant, moi, j'avais un petit billet de mes grands-parents qui s'étaient signés toute leur vie.
Et alors, qu'est-ce qu'on fait? On lui saisit tout.
Mais non, mais c'est, voilà, je comprends le désintérêt de la politique pour les Français. Je comprends pourquoi l'abstention monte de plus en plus en disant, pourquoi voter pour des gens qui ne nous représentent pas.
Mais
ça participe de la défiance et du dégoût des Français.
Mmh. Oui, mais sauf qu'en fait, dans du papier argenté, quoi.
Voilà. Et là, on parle de ses enfants, oui, de son père, mais pas d'elle personnellement.
Mais oui, mais c'est ses enfants quand même. Son père et ses enfants. On appelle ça une famille.
Mais d'accord. Alors d'accord.
Mais c'est légal. C'est légal. Mais moralement, ça me gêne.
D'accord. Mais enfin, t'es pas responsable de ta famille. Enfin, ça se saurait.
Bah moi, je l'aime beaucoup, ma famille, et je suis très fier d'où je viens.
Enfin, bon, c'est voilà.
Elle est sans doute aussi très fière de.
Ah mais j'en doute pas.
De ses parents, tu vois. Apolline Matin, ce matin, à qui est vraiment due la hausse des prix au supermarché? Producteurs et distributeurs se renvoient la balle. Christiane Lambert, la patronne de la FNSEA, dévoile ce matin un chiffre et donne une explication. Les charges des agriculteurs ont augmenté de presque 27% dans les exploitations.
Donc je crois qu'il ne faut pas tourner autour du pot. Nous avons une hausse de toutes les charges, plus 26,7% dit l'INSEE, augmentation des charges dans les exploitations agricoles. Mais il y a aussi une rareté, madame, qu'il faut souligner. La grippe aviaire fait que nous avons moins de volailles, la sécheresse fait que nous avons moins de légumes, la sécheresse au Canada fait que nous avons manqué de moutarde, la guerre en Ukraine fait que nous manquons d'huile de tournesol, les inondations au Pakistan font qu'il y a des pénuries de riz. Donc c'est un nouveau contexte très différent entre pénurie et inflation, et c'est vrai que ça change le paradigme habituel. Et pour les distributeurs qui ont toujours fait campagne sur « Venez chez moi, c'est moins cher », c'est une révolution culturelle.
C'est pas très gai, hein, le panorama que dresse Christiane Lambert de la situation des agriculteurs. Enfin, on en sait un peu plus sur l'augmentation des prix, quand même.
Je trouve que Christiane Lambert est une excellente représentante des agriculteurs. Bien elle dit. A un franc-parler extrêmement clair. Elle dit les choses sans sourciller. Effectivement, on a un problème de base qui est que les exploitants aujourd'hui, qui étaient déjà dans des contraintes financières compliquées, voient leurs contraintes encore plus compliquées à cause des coûts des matières premières et des énergies. Donc, on est dans une quadrature du cercle qui va être très, très compliquée à résoudre.
Deux agriculteurs se suicident en France tous les jours.
Il y a agriculteurs et agriculteurs aussi. Hein.
C'est-à-dire ?
Ah bah là, non mais si on parle de la grande distribution, on parle des grands fournisseurs, il y a aussi les grands céréaliers. Non mais
oui, bien sûr.
Non mais voilà, parce que moi j'imagine, tu le sais, on vient du
milieu. Bien sûr.
Et moi mes grands-parents étaient agriculteurs. Il faut faire la différence entre le petit éleveur et le grand céréalier.
Oui, bien sûr.
Ah oui, parce
leur situation n'est pas la même. Et il y a peut-être un certain nombre d'agriculteurs, grands céréaliers et grand bien leur en face, ils gagnent de l'argent, mais qui pourraient faire certains efforts, peut-être. Alors que de petites exploitations, eux, n'en peuvent
mais c'est
déjà
quoi,
plus.
Aujourd'hui, une ferme moyenne en France, c'est 70-80 hectares, 100 hectares. C'est pas non plus des méga fermes.
Non, mais il y en a des méga
fermes. Il y en a quand même.
Les grandes gueules ce matin, vaut-il mieux acheter que louer? Depuis un an, les taux d'emprunt s'envolent. Comptez 2,20% pour un crédit sur 25 ans en novembre. L'année dernière, à la même époque, ce même crédit stagnait autour de 0,95%. Des taux beaucoup trop élevés selon Bruno Poncet, le cheminot des GG, pour qui acheter n'est plus du tout rentable.
Moi j'ai des amis qui essayent d'acheter, mais il faut voir ce qu'on leur demande. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faudrait quasiment qu'ils demandent à leurs grands-parents d'être garants. Tu vois. Et les taux ont augmenté, les prix ne baissent pas tant que ça. Ce qui est quand même assez incroyable. Et donc, ce qui fait
dans les grandes villes, en tout cas, parce que c'est encore sous tension.
Comme disait tout à l'heure Olivier, mais c'est vrai que quand tu achètes, il faut un temps de rentabilité extraordinaire. Et puis, à un moment donné, les banques ne te prêtent pas. J'ai acheté il y a 2 ans et fin de crédit, vu que c'est 25 ans, 73 ans.
Ah oui.
3 ans, je serais mort, moi, déjà, avec tout le
temps. Toi, c'est pas intéressant.
Voilà, et la question, vaut-il mieux acheter que louer? Le problème, c'est pour acheter, il faut avoir des moyens. On a l'impression que
on devient un peu le locataire de son banquier en vérité pour un bon petit moment. C'est vrai qu'à la fin, quand tu finis par tout payer, tu as un bien qui est à toi. Mais c'est vrai que c'est tellement structuré de manière caricaturale, en fait, les biens patrimoniaux en France immobiliers qui sont entre les mains de très très peu de personnes qui organisent un marché parce qu'ils détiennent la moitié des logements en France, je pense qu'ils appartiennent à 11 ou 13%
des propriétaires qui possèdent
la moitié des patrimoines, qu'à un moment il va falloir trouver des stratégies pour casser en fait ce marché-là. Et oui, je vois, c'est vrai que être locataire d'une banque toute sa vie pour au final à un moment finir par avoir j'imagine que tout le monde ne peut pas en avoir les moyens, moi j'y pense même pas.
Après ouais. Oui mais après t'as un toit et tu peux revendre donc mais en oui, fait après, c'est ton patrimoine en fait et c'est ce que tu vas léguer à tes enfants quand t'as des enfants etc. Mais
avec des droits de succession.
Tu vois ça dépend. Ma fille par exemple elle a acheté il y a pas très longtemps, elle est en train de faire les travaux, elle m'a envoyé d'ailleurs les photos des travaux au moment de la pause parce qu'elle est en train de bricoler, elle a acheté pas cher parce qu'elle peut pas acheter très cher, elle commence à se constituer une petite pelote. Alors évidemment elle est endettée pour très longtemps, elle peut-être elle revendra avant la fin de son crédit.
C'est souvent le cas.
Elle est jeune, donc elle a la chance justement de ne pas avoir une assurance. Parce que ce qui pose problème, ouais. En fait, il faut le dire aux Français, c'est que l'assurance est élevée dès qu'on a plus de 40 ans et donc on atteint le taux d'usure et donc on peut, les banques ne vous plaident plus. Quand vous êtes jeune et que vous avez un CDI, normalement, ça passe. Ça passe. Compliqué encore, mais ça passe. Il faut le faire. Plus on est jeune, plus on commence, plus on taille, on fait sa pelote et plus ça fonctionne. Il faut être optimiste.
Voilà, et puis une majorité des Français rêvent de devenir propriétaires. Voilà, ça a été le rêve de millions de personnes.